Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mine till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et le 27 janvier 2012 aura lieu en France et dans de nombreux autres pays la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette date correspond symboliquement, vous le savez, à la libération du camp d'Auschwitz par l'armée russe. Et cette journée particulière est souvent rythmée de musique, dont certaines composées par des hommes ou des femmes qui ont traversé la Shoah et y ont souvent laissé leur vie. Depuis maintenant près de 20 ans, des musicologues, des musiciens se sont intéressés à cette génération de compositeurs brisés par la Shoah, des talents souvent immenses, anéantis par la barbarie nazie. Notre émission musicale de ce soir sera donc consacré aux musiques des camps de déportation et d'extermination. Et pour nous guider, nous bénéficierons des lumières de Bruno Giner, qui a publié il y a quelques mois un livre à la fois sobre et documenté sur le sujet qui s'intitule « Survivre et mourir en musique dans les camps nazis ». Bruno Giner, bonsoir.
Bonsoir.
Et ma première question sera en fait toute simple. Votre livre est absolument passionnant. Je l'ai lu malgré la gravité du sujet avec beaucoup d'intérêt et d'avidité presque, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et je voulais savoir qu'est-ce qui a motivé en fait l'écriture de ce livre.
Alors, en fait, ce livre est issu de travaux antérieurs. J'ai commencé à m'intéresser à la période nazie par rapport à, en tout cas, à ses implications sur la musique il y a une dizaine d'années. Et ma première problématique, en fait, venait de l'exil. Puisque moi-même je suis issu d'une famille d'exilés espagnols et donc j'avais voilà cette problématique de l'exil comme ça qui me taraudait et savoir un peu par rapport aux musiciens ce qui avait pu se passer. Alors évidemment j'ai plutôt choisi l'Allemagne qui est plus pertinente que l'Espagne bien que et j'ai commencé à faire un premier livre qui s'appelait De Weimar à Térésine, l'épuration musicale qui est sorti en 2006 aux éditions Van de Velde. Et dans ce livre qui traite vraiment de l'épuration politique idéologique par rapport à l'art et à la musique en particulier, le dernier chapitre traitait de la musique dans les camps, qui était un peu pour moi le dernier type d'épuration de l'horreur nazie. Et évidemment, c'était juste un chapitre. Et en finissant quasiment ce chapitre, qui est le dernier du livre, je me disais qu'il y avait de quoi en faire un livre entier.
Et c'est ce que vous avez fait quelques années plus tard.
C'est ce que j'ai fait quelques années plus tard, voilà. Sachant que, bon, il a fallu passer du temps à faire des recherches supplémentaires, évidemment, et puis digérer aussi.
J'imagine, pour ressortir cette somme que nous trouvons dans votre livre « Survivre et mourir en musique dans les camps nazis ». Et vous avez choisi un extrait musical, justement, qui est en rapport peut-être avec vos racines et en même temps avec tout le travail qui est un travail... parce qu'il faut préciser que vous êtes également compositeur. Vous n'êtes pas seulement musicologue ou musicien, vous êtes un homme complet et comblé d'ailleurs, parce que c'est un peu le rêve de tout musicologue de pouvoir faire un peu plus de musique ou de composer. Donc vous avez composé une œuvre, je crois, notamment qui s'intitule...
Oui, paraphrase sur Guernica de Paul Dessau. Et donc en fait, je suis d'abord compositeur. La musicologie est venue plus tard, mais je ne me revendique d'ailleurs pas musicologue, mais... voilà, je peux effectivement faire un travail qui s'apparente à la musicologie, mais que sur des sujets qui m'intéressent. Oui, et donc en travaillant sur cette période-là, j'ai découvert énormément d'œuvres de compositeurs, notamment de Paul Dessau, de tous ces compositeurs exilés, dont finalement on connaît, enfin maintenant mieux, mais on a mis du temps à connaître leurs œuvres de par ce déracinement. Justement, et de par cette brisure, y compris dans leur vie, liée à l'exil. Dessau a écrit 1937, donc juste après le bombardement de Guernica. Tout le monde connaît évidemment le tableau de Picasso. Et par contre, peu de gens connaissent cette petite œuvre pour piano, qui est dans la série des Intermezzos de Dessau, qu'il a écrit juste bouleversé par le bombardement de Guernica. Il a écrit ça en exil, puisqu'il était déjà parti d'Allemagne. D'ailleurs, il a après composé des choses pour les brigades internationales en Espagne. Donc, il y a énormément de liens. Et donc, j'ai composé, oui, une paraphrase de cette œuvre pour piano, donc qui est pour clarinette, violoncelle, piano et percussion.
Eh bien, écoutons-la, je vous propose. Sur Guernica de Paul Dessau, une œuvre de Bruno Giner pour clarinette, violoncelle, piano et percussion, une œuvre qui date de 2002, je crois. Merci Bruno Giner. Et je reviens à votre livre, puisque tel est le sujet également de cette émission. Et ce livre, j'insiste, vraiment très pédagogique, qui décrit parfaitement comment la musique a pu s'introduire dans les camps, d'abord clandestinement, puis de manière assez habile et pervers, il faut le dire, encouragée par le régime nazi. Et mon autre question sera la suivante. Pourquoi les nazis donc ont-ils autorisé, et même encouragé, comme vous le dites, les musiciens déportés à se produire dans les camps ?
Ah, vaste, vaste question. Donc, le côté mélomane des Allemands n'explique pas tout, bien qu'il explique une petite partie quand même de ça. Je pense que c'était surtout un besoin. C'est-à-dire que la musique a été très, très vite instrumentalisée par le régime et par la direction de chaque camp pour des besoins de comptage des prisonniers, par exemple. On y reviendra sûrement plus tard. Et aussi pour tout simplement leur bon plaisir. On a beaucoup d'exemples comme ça d'officiers SS qui venaient réclamer telle ou telle musique, notamment par exemple à l'Orchestre des Femmes de Birkenau, qui est un orchestre très particulier, puisque c'est le seul orchestre féminin de toute l'histoire des camps, qui a été constitué vraiment par les autorités du camp. Mengele venait très souvent, par exemple, dans le bloc où les musiciennes répétaient. Il prenait le cahier de répertoire et il demandait, je voudrais écouter La Rêverie, je voudrais de Schumann, ou je voudrais écouter telle œuvre. Et puis il repartait.
Et cet orchestre était dirigé, vous le dites dans votre livre, par Alma Rosé, ouais, la nièce de Gustav Mahler.
C'est ça. Ouais. Et donc il y avait tout cet aspect-là. Et alors après, un aspect plus pervers, qui est la propagande. Et en fait, cette idée de propagande, on a le camp de Térézine qui en est un exemple, je crois qu'on y reviendra plus tard, mais elle est, comment dire, elle est tout de suite, c'est-à-dire les tout premiers camps en 1933 qui ouvrent, il y a déjà cette idée de propagande avec la musique. Par exemple, le camp d'Orenembourg, qui est un des premiers à avoir ouvert avec Dachau, en 1933, en mars, le commandant du camp fait tout de suite des émissions de radio, justement. Par exemple, il tourne aussi un court-métrage filmé et il montre, il prend des détenus, il les oblige à jouer alors qui du violon, de la guitare ou plus quelques chansons, donc c'est très rudimentaire, mais ces images-là sont filmées et ça sert de propagande, sachant que l'idée c'est de dire regardez les prisonniers, on les traite bien, bon, on est dans les tout premiers camps, ce sont des camps punitifs destinés quasiment qu'aux opposants politiques. On n'est pas du tout encore
Dans la phase d'extermination.
Mais l'idée est la même, elle sera reprise après, c'est-à-dire, c'est quand on ne peut pas torturer, etc., puisque, regardez, les prisonniers sont bien traités, ils peuvent même faire de la musique.
Oui, donc vous nous avez parlé justement de Térézine sur ce camp très particulier sur lequel nous reviendrons plus tard. Et je vous propose d'écouter à présent justement une œuvre d'un de ses compositeurs, Victor Ullmann, qui a séjourné et même mort, mais a séjourné par Térézine et a pu écrire de la musique, et notamment justement un Kaiser von Atlantis, le Kaiser d'Atlantis, qui, on en dira peut-être quelques mots après, n'était pas vraiment une œuvre de propagande pour le régime nazi, mais plutôt une œuvre de contestation. Mais je vous propose d'écouter dès à présent donc le prologue de cette pièce, le Kaiser von Atlantis de Victor Ullmann.
Kaiser Overall von Atlantis in eigener Person, den man schon seit Jahren nicht gesehen hat, denn er ist in seinem Riesenpalast eingeschlossen, ganz allein, um besser regieren zu können. Der Trommler, eine nicht ganz wirkliche Erscheinung, wie das Radio. Der Lautsprecher, den man nicht sieht, nur hört. Ein Soldat und ein Mädchen. Der Tod als ein abgewandter Soldat. Der unter Tränen lachen kann, das ist das Leben. Das erste Bild spielt irgendwo. Tod und Harlekin sitzen im Ausgedinge. Das Leben, das nicht mehr lachen, und das Sterben, das nicht mehr weinen kann, in einer Welt, die verlernt hat, am Leben sich zu freuen und des Todes zu sterben. Hallo, hallo!
Nous venons d'entendre le prologue du Kaiser von Atlantis, une œuvre de Victor Ullmann. Victor Ullmann, un des compositeurs phares justement de Térézine, mort à Auschwitz, je crois. Et pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette pièce que nous venons d'entendre pour nos auditeurs qui ne comprennent pas l'allemand et puis le sens peut-être un petit peu de la pièce.
Alors c'est peut-être ce qui a été composé de plus ambitieux, je dirais, d'un point de vue artistique, dans le ghetto camp de Theresienstadt. Victor Ullmann donc était compositeur. Par ailleurs, il s'occupait de l'administration des loisirs dans le ghetto. Et il a composé, c'est un opéra en fait, tout simplement, un opéra avec plusieurs personnages, orchestre, qui est ce qu'il a composé sur un livret de Peter Kinn, qui était un jeune poète détenu aussi dans ce ghetto. Et c'est l'histoire, alors c'est une, vraiment d'actualité évidemment, et ce qui pose effectivement quelques problèmes, comme vous disiez tout à l'heure, comment c'est possible finalement de faire une œuvre qui est en fait une parabole complète de l'oppression et du système nazi en réalité, parce que le Kaiser c'est un empereur qui s'appelle Overall dans l'opéra, qui est un despote, un tyran absolu qui règne sur un royaume imaginaire et qui décrète la guerre totale.
Oui.
Donc voilà, c'est tout à fait...
Il n'y a pas besoin d'explication.
Voilà. Et Ullmann a composé ça relativement tranquillement dans son ghetto. Par contre, l'œuvre n'a jamais été représentée de son vivant, en tout cas. Donc elle n'a jamais été représentée à Térésine. Donc on ne peut pas savoir quel aurait été Enfin, les autorités nazies et SS du camp, ce qu'elles en auraient pensé ou fait, et est-ce qu'elles auraient même compris toutes les allusions.
Mais comment a-t-on retrouvé l'œuvre sur partition
Oui, on a retrouvé les partitions, tout simplement. Voilà, et l'œuvre a été créée en 1975 seulement.
Ah oui, donc vraiment plus de 30 ans après.
Voilà, et en fait, cette œuvre fonctionne énormément à double sens, donc en permanence, à la fois dans le texte, mais aussi dans les musiques. Par exemple... Il y a un passage plus tard dans une scène où l'empereur Overall cite tous ses titres ronflants. Il est empereur de l'Atlantide, général en chef des armées, etc. Et il énumère comme ça un certain nombre de titres. Et en même temps, on a l'hymne allemand qui est déformé, Deutschland über alles, en dessous. Il y a aussi un autre endroit, par exemple plus tard, une citation de Gustav Mahler. Gustav Mahler était un compositeur strictement interdit.
Mmh. Parce que d'origine juive.
Absolument. Donc voilà, et cet opéra fonctionne en permanence comme ça. Et alors, ce qui est étonnant, c'est donc quand Overall déclare la guerre totale, la mort qui est personnifiée, elle-même est tellement horrifiée qu'elle se met en grève.
Si ça avait pu être le cas, ça aurait été formidable. Mais comme vous le dites, bon, là, on est vraiment déjà dans une musique de résistance, en tout cas de survie, hein, comme le dit le titre de votre très beau livre. Mais en réalité, dans les premiers temps, et notamment à Dachau, si on prononce en allemand, la musique n'était pas utilisée comme telle par les nazis. Je cite votre livre, vous dites donc... à Dachau et dans d'autres camps punitifs, le premier contact des détenus avec la musique était le son de puissants haut-parleurs. Réglés à très fort volume, ils diffusaient des hymnes nazis, des chansons folkloriques allemandes ainsi que des discours de propagande anti-bolchévique ou antisémite via la radio officielle du Reich. Aucun détenu ne pouvait échapper à cette forme particulièrement brutale d'agression sonore dont l'objectif était l'intimidation et l'endoctrinement. Dans d'autres camps, les autorités diffusaient également de larges extraits d'opéras de Wagner ainsi que des symphonies de Beethoven ou Bruckner, garantes du véritable et authentique art allemand, autrement dit, arien. Donc la musique était là un outil de propagande, elle était vraiment subie par les prisonniers. Et plus tard, mais assez rapidement, les choses ont changé, avec notamment une espèce de détournement effectué par ces prisonniers qui vont en fait... introduire dans les camps leur propre chant, le chant de chaque camp, et qui sont en fait des chants de résistance. Notamment, je pense que c'est dans quel camp que va se créer le fameux chant des marais, qu'on appelle, je crois, le Bürgermoorlied ou le Moorsoldaten.
Oui, c'est ça. Oui, alors on est toujours, en fait, durant toute la période des camps de concentration et d'extermination, on est toujours sur ces deux chants-là, c'est-à-dire la musique instrumentalisé, obligatoire, récupéré par le régime et par le système concentrationnaire lui-même, et aussi la musique comme forme de résistance, ou en tout cas de survie, effectivement. On est toujours sur ces deux choses-là en permanence, ces deux registres se croisent tout le temps, se croisent et s'entrecroisent. En l'occurrence, à Bürgermoor, oui, c'est les tout premiers camps de punitifs, donc, où étaient détenus les opposants politiques, principalement, quasiment, donc à forte dominante communiste, puisque ça correspond aussi avec l'interdiction du KPD, du Parti communiste allemand, et donc l'internement de tous ces gens-là, où il y avait même, y compris des personnalités politiques connues, etc. Et c'était des camps où on voulait les rééduquer, c'est-à-dire que les remettre dans le droit chemin du national-socialisme. Donc, effectivement, il y avait tout ce côté oppressant de propagande forcée pour les rééduquer. Et, évidemment, il y a eu des mouvements de résistance, d'opposition, et le chant est effectivement peut-être toujours un des symboles très forts de ça. Et Burgermoor, donc, qui était parmi les tout premiers camps, c'était un camp particulièrement difficile, est né ce Burgermoor Lied, chant du Burgermoor, qui effectivement est connu en France sous le nom de Chant des Marais, qui a été un très célèbre chant sous l'occupation dans la résistance. Et il est né là-bas, et je vais vous lire peut-être le témoignage de celui qui l'a mis en musique. Alors, il y a une autre chose importante, c'est qu'il y avait énormément de musiciens amateurs, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de Victor Ullmann, qui était un compositeur là professionnel, mais il y a énormément eu de musiciens amateurs dans tous les domaines. Et là, c'est le cas. Et donc, le musicien qui a écrit la musique était un militant communiste, mais tout à fait amateur musicalement, et qui témoigne, mais très longtemps après, comment il a pu composer cette musique. Alors, je vous lis juste un extrait de son témoignage. « Mes camarades jugèrent possible de me soustraire du travail dans le marais à condition de m'infliger une blessure volontaire, ce qui fut fait. Ainsi, pouvais-je entrer à l'infirmerie qui était en cours d'installation et commençait à fonctionner ?» Mes camarades me procurèrent une guitare, objet rare à Burgermoor. J'avais également quelques feuilles de papier, un crayon et bien entendu le texte du poème. C'est donc finalement au cours des deux nuits suivantes que j'ai composé la mélodie.
Donc je vous propose d'écouter ce fameux chant du marais, Burgermoor Lied ou Die Moorsoldaten. Il est connu sous les deux noms dès à présent.
Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude Winterstacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Heimwärts, jeder sehnet nach den Eltern weit und kind. Manche Brust ein Seufzer sehnet, weil wir hier gefangen sind. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzeugt die Burg.
Die Moorsoldaten, en français, traduction, le chant des marais. D'ailleurs, le texte est intéressant, je vous en lis quelques extraits. Donc, partout où porte le regard, on ne voit que le marais et la lande. Pas de chant d'oiseaux pour nous consoler, que des chaînes dégarnies et tordues. Nous sommes les soldats du marais, et nous allons la bêche sur l'épaule dans le marais. Et donc, en fait, c'est un champ de prisonniers. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est une véritable marche. Mmh. Vous disiez tout à l'heure, ces champs ont servi aussi à compter les prisonniers lorsqu'ils allaient au travail et lorsqu'ils en revenaient. Et justement, ce pas cadencé de marche, binaire, on entend, permettait donc aux nazis de faire ce comptage assez macabre des prisonniers pour vérifier que le compte y était. Ce qui est intéressant, c'est que ce chant donc s'est diffusé en dehors des camps, notamment, je crois, par des prisonniers qui ont été libérés. À cette époque-là, on pouvait encore sortir des camps, et donc a été repris comme un hymne par tous les mouvements de résistance, ce qui est assez incroyable, non ?
Oui, ce chant s'est complètement propagé de bouche à oreille, en fait. Tout simplement, mais sur toute l'Europe, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'Europe était envahie par les hordes nazies, et le chant se passait tout le temps, et c'est pour ça. Alors avec des adaptations différentes, c'est-à-dire que la traduction française, par exemple, le chant des marais, qu'on chantait donc pendant la résistance ou l'occupation, n'est pas la traduction exacte du chant allemand. C'est-à-dire c'est une autre version, mais avec la même musique.
Et donc, en plus, ce qui est intéressant, vous le dites dans votre livre, c'est qu'après, chaque camp a eu son propre chant, et à la demande souvent du commandant du camp, qui se faisait presque comme une obligation et une fierté d'avoir son propre chant, et demandait parfois aux détenus de le composer.
C'est ça.
Une espèce de rivalité perverse.
Oui, tout à fait perverse. Et le premier chant, hymne, à part celui-là, est apparu à Dachau après le Dachau-Lied, qui a été composé par Hans Zippert, qui était un musicien professionnel, chef d'orchestre, et qui a écrit cet hymne, donc, ce qui est devenu l'hymne du camp, sur le slogan qui était marqué sur la porte, « Arbeit macht frei ». Qui lui a donné, donc, il a fait le texte avec ça. Ensuite, effectivement, chaque camp, du coup, a fait son propre hymne. Et alors, de façon de soit, effectivement, un peu clandestine, parce que par exemple, le Bürgermeister, il faut savoir que deux jours après sa première exécution dans le camp, il a été interdit, strictement interdit. Le Dachau-Lied aussi. Par contre, on a d'autres exemples, le camp de Buchenwald, qui était dirigé à l'époque par le colonel Rödel, qui était un fou complet, mélomane, fanatique et ivrogne invétéré, a absolument voulu qu'il y ait un hymne là pour le coup dans son camp, qu'il a lancé même un concours, qu'ont remporté deux détenus qui sont Hermann Leopoldi, qui était compositeur de musique légère à Vienne, donc voilà, et le librettiste Fritz Lerner-Beda. Donc ils ont remporté le concours, ils ont passé leur copie, si j'ose dire, par l'intermédiaire d'un capot, parce qu'étant juif, en fait, leur chanson n'aurait pas été retenue. Là, on est en 38. Et donc ils ont été internés suite à l'Anschluss et à la nuit de cristal. Et Rödel a obligé tous les détenus, ils étaient 7000 à ce moment-là, bloc par bloc, à apprendre le chant pendant des heures, jusqu'à ce qu'ils le sachent par cœur.
Incroyable. Et dans votre livre, justement, on voit que la place du chant, notamment donc avant le début réel de la Seconde Guerre mondiale en 1939, et vous le dites fort bien que la pratique musicale dans ces camps était plutôt rudimentaire, il y avait des arrangements de chansons, mais il faudra attendre vraiment presque juste avant la guerre 1938 pour que soient créés les premiers orchestres dans les camps. Pourriez-vous nous donner brièvement quelques détails sur ces premiers orchestres ?
Alors oui, c'est-à-dire que jusqu'à la déclaration de guerre, en fait, il y avait énormément de détenus allemands. La population juive a commencé à rentrer vraiment dans les camps après 38, à 38. Et donc, on a eu les premiers musiciens vraiment professionnels qui se sont retrouvés déportés, en tout cas internés. Par exemple, on a eu à Dachau une partie de l'orchestre de Munich, de la Philharmonie de Munich, puisque ça c'est lié à l'épuration, c'est-à-dire que les Juifs étaient interdits de travail, et donc les orchestres étaient épurés. La fonction du chef d'orchestre, à l'époque qui s'appelait Generaldirektor Musikdirektor, était aussi de dresser la liste des musiciens et de tout simplement démissionner de force tous les musiciens qui étaient d'origine juive.
Et je crois que cette épuration, évidemment, ne s'est pas faite sans voix qui partout en Europe criaient et hurlaient contre ce qui se passait dans l'Allemagne nazie. Et des compositeurs eux-mêmes, tels Carl Amadeus Hartmann ou encore Hans Eisler, ont écrit des œuvres déjà à cette époque pour dénoncer les camps. Pourriez-vous nous présenter très rapidement ces deux compositeurs, leurs créations, puis on va écouter tout de suite après un extrait d'une de
Alors, c'est deux compositeurs qui sont intéressants chacun. Eisler, lui, est en exil. Il est parti tout de suite dès 1933 parce qu'il est membre tout simplement du Parti communiste. Donc, persona non grata absolu, il a été obligé de partir très très vite. Collaborateur de Brecht, et Hartmann, lui, a fait un autre choix. Il a fait ce qu'on appelle l'émigration intérieure, l'exil intérieur. Il s'est resté reclus chez lui à Munich. Et ces deux compositeurs ont effectivement écrit, alors concernant Eisler en exil, c'est-à-dire les années 36-37, il a écrit la symphonie, la Deutsche Symphonie, qui en fait au départ s'appelait Symphonie des camps de concentration, puisqu'ils avaient tous, en tant que communistes, des amis, des camarades, qui étaient internés dans les camps allemands. Hartmann, lui, vivait à Munich, donc pas loin de Dachau. Et il a assisté, il a vu des prisonniers rentrer, et il a écrit deux œuvres, une au début, en 1933, qui s'appelle Miserere, qui est dédiée, très explicitement dédiée aux prisonniers de Dachau, et une à la fin, à la libération du camp, où il a vu ces hordes de détenus miséreux qui arrivait, qui partait. Et donc ça, c'est la sonate pour piano qu'il a appelée 27 avril 1945.
Et dont nous allons écouter dès à présent deux courts extraits du troisième et quatrième mouvement. Deux extraits de la marche funèbre, extraits eux-mêmes de la sonate, d'une sonate qui s'intitule 27 avril 1945, œuvre de Hartmann, Carl Amadeus Hartmann. Bruno Giner, vous écrivez dans votre livre qu'à partir de 1939, donc la date vraiment de déclenchement des premières opérations militaires, la vie dans les camps, qui était déjà très difficile, se durcit encore avec l'arrivée de nombreux internés, tziganes, juifs, mais également prisonniers de droit commun, homosexuels, témoins de Jéhovah, asociaux, et sans oublier les handicapés qui furent éliminés sans aucune forme de pitié. Et les plus cruels, c'est-à-dire principalement les criminels ou asociaux, deviennent rapidement les auxiliaires des nazis. En bas de l'échelle, bien sûr, dans ces camps, les Untermensch, les sous-hommes, essentiellement les tziganes et les juifs, dont l'existence ne tient qu'à un fil. Et ces sous-hommes forment une main-d'œuvre abondante qui est largement exploitée par le régime nazi. Seules quelques professions, parce qu'utiles à l'organisation du camp, comme les médecins, les dentistes ou les infirmiers, bénéficient de conditions un peu meilleures. Et parmi ces personnalités, il y a quelques musiciens que l'on va utiliser dans diverses circonstances. Bruno Giner, pourriez-vous nous préciser lesquels, en fait ?
Oui, les musiciens ont eu... S'ils n'étaient pas gazés immédiatement, en ce qui concerne les camps d'extermination, ils avaient de fortes chances de survivre, parce qu'ils étaient utiles. Utile au système. Alors, pourquoi ils étaient utiles ? D'abord, il y a cette histoire de comptage qui est ce qui était quotidien, c'est-à-dire que l'orchestre était à l'entrée du camp, matin et soir, pour le départ des commandos, des Arbeitskommandos, des commandos de travail, et pour leur retour, ce qui permettait effectivement, les détenus étant par cinq, de marcher au pas et faciliter énormément le comptage, aller et le comptage au retour. Donc tous les musiciens des orchestres étaient déjà de toute façon obligés de jouer deux fois par jour. Ensuite, évidemment, ça servait aussi aux exécutions dans certains camps. Les pendaisons se faisaient en musique au son de l'orchestre ou de quelques musiciens, ou de chœur, notamment à Ravensbrück, puisqu'il n'y avait pas d'orchestre à Ravensbrück, beaucoup plus d'activités vocales du coup. Musique de divertissement aussi, parce que voilà, n'importe quel capot ou n'importe quel évidemment officier ou sous-officier SS pouvait se payer l'orchestre quand il voulait pour une soirée privée, pour un anniversaire, pour n'importe quoi. Et les cérémonies aussi, quand il y avait une visite officielle dans le camp d'un dignitaire, un nazi quelconque. L'orchestre était évidemment réquisitionné pour jouer à cette occasion-là. Donc il y avait énormément de fonctions finalement utiles, et c'est pour ça que les musiciens bénéficiaient souvent de petits avantages, mais on sait très bien que ces petits avantages, une couverture, un paquet de cigarettes, une ration supplémentaire, dans les camps, notamment Auschwitz, étaient précieux et permettaient de vivre tout simplement.
Et parmi donc ces musiciens, je voudrais vous citer deux noms en particulier, Chaim Lipsky et puis également Simon Lax. Deux mots rapides sur Chaim Lipsky, qui est toujours en vie d'ailleurs, formidable, il a plus de 90 ans, qui a été déporté très jeune, qui était violoniste dans le camp d'Auschwitz, qui a réussi justement à survivre de par sa fonction de musicien. Et il a passé, je dirais, la marche de la mort, il a survécu à la marche de la mort. Et après donc la fin de la guerre, il est parti en Palestine à l'époque, et il s'est installé là-bas. Et ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, c'est que quand il est arrivé à Haïfa avec sa femme, il a déclaré que Israël n'avait pas besoin de musiciens mais de bâtisseurs, et il a laissé à ses enfants et à ses petits-enfants le soin de reprendre le flambeau musical, ce que chacun d'entre eux fait, puisque il a en fait dans sa ses enfants et ses petits-enfants de nombreux musiciens virtuoses. D'ailleurs, je voudrais signaler à ce propos qu'il y a un spectacle magnifique qui va bientôt être joué entre le 28 janvier et le 3 juin 2012, qui s'appelle Chaim à la lumière d'un violon, qui est justement l'histoire de Chaim Lipsky, et je vous encourage à aller le voir. Ça passe au 20e théâtre à Paris, Paris 20e justement, et vous retrouverez toutes les dates de ce spectacle qui raconte en musique l'histoire de Chaim Lipsky sur l'agenda du Centre français des musiques juives. Et autre, je l'ai dit, compositeur important, c'est Simon Lax, qui lui aussi est passé par Auschwitz, qui a publié un livre qui s'intitule « Mélodie d'Auschwitz », qui, après Auschwitz, a publié de nombreuses œuvres, dont une hirondelle inattendue que je vous propose d'écouter à présent un extrait. «
car apparemment je me suis égaré.
De Simon Lax, L'Hirondelle inattendue, un opéra bouffe en un acte dans un très beau disque, un disque coffret qui vient de paraître publié par EDA dans la collection Poland Abroad. Quelques mots sur Simon Lax, Bruno
Oui,
Genère.
Simon Lax, qui était donc le chef de l'orchestre des hommes, du camp des hommes de Birkenau. Et qui était Notenschreiber aussi. Alors Notenschreiber, c'est très important dans les camps. C'est ces musiciens qui étaient suffisamment aguerris, cultivés, et qui connaissaient vraiment très très bien la musique. C'était souvent des professionnels, ceux-là, qui étaient chargés de arranger les partitions, parce qu'évidemment, souvent on jouait des arrangements. Donc il fallait des gens capables de connaître suffisamment l'harmonie, etc., le contrepoint, l'écriture, pour faire ces arrangements. Et le Notenschreiber était encore plus privilégié, entre guillemets, que les musiciens ordinaires, puisque souvent, ils travaillaient dans le bloc. Donc déjà, il sortait pas au froid. Il était dispensé de travaux extérieurs, etc. Donc Simon Lax a été ça. Et la deuxième chose importante pour le concernant, c'est que ça a été le premier musicien à témoigner, tout simplement dans ce livre, effectivement, Mélodie d'Auschwitz. Et ça a été le premier témoignage de rescapés musiciens. Et il y en a eu d'autres après, mais bien après. Notamment, il faut quand même citer le livre d'Anita Lasker, qui était violoncelliste à l'Orchestre des Femmes de Birkenau, qui s'appelle La vérité en héritage. Il faut citer aussi le livre de Violette Jacques Silberstein, qui était violoniste, elle, à l'orchestre aussi du camp des femmes de Birkenau, qui s'appelle Le long sanglot des violons. Quelques témoignages aussi de Jacques Strumza, qui était un très bon violoniste amateur, lui, mais très bon, qui a aussi témoigné. Donc on a comme ça quelques, à la suite de Simon Lax, d'autres témoignages qui sont arrivés.
Témoignages qui sont arrivés tardivement.
Tardivement,
parce que,
oui.
Comme pour tout le reste, c'est, voilà, les blessures à cœur ouvert, bien comme sûr, ça, sont très longues à penser. Et alors, en lisant votre livre, parce que là, on a entendu beaucoup d'œuvres qu'on pourrait qualifier de classiques, j'ai eu la surprise de découvrir qu'on pratiquait également le jazz dans les camps, et notamment dans un camp un peu spécial qui était Résine. Il y a même une histoire assez incroyable à propos de Fritz Weiss, dont on va entendre un extrait. Fritz Weiss était un musicien donc juif qui jouait dans un ensemble de jazz avec des Tchèques, des Allemands avant-guerre, et puis avec donc la ségrégation raciale, progressivement il n'a pas pu jouer. En tout cas, il enregistrait quand même, il faisait des sessions d'enregistrement, et il était interné à Térésine avant d'être gazé à Auschwitz. Mais on a retrouvé des enregistrements d'archives de ces sessions, dont je vous propose d'écouter des à présent un extrait d'une œuvre qui s'appelle Na programu mame swing, qui a été enregistrée à Prague en 1940.
Thank you.
extrait d'une œuvre de Fritz Weitz, donc de jazz, dans un enregistrement publié par le musée juif de Prague, d'après des archives, enregistré donc à Prague en 1940. Et donc, comme on l'a dit, Fritz Weitz suit internet Térésine. Térésine, aujourd'hui, on est beaucoup mieux connu qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Mmh. Beaucoup d'études ont été faites sur ce camp ghetto très particulier. Pourriez-vous, c'est une gageure en deux phrases, nous dire qu'est-ce qu'était Térésine ?
Térésine était d'abord un chapitre du protocole de Wannsee, de la conférence de Wannsee. Donc un ghetto, effectivement, qui a été vidé, une ville qui a été vidée de tous ses habitants pour y mettre principalement les juifs plutôt âgés. Plutôt du protectorat de Bohême-Moravie et plutôt des personnalités. Effectivement, ça se serait trop vu. Donc, il y avait beaucoup de musiciens et ce camp a la particularité d'avoir développé énormément d'activités culturelles pour des raisons évidentes de propagande et notamment musicales. Il y avait quatre orchestres, plusieurs chœurs, des musiciens très connus comme Karel Anserl, par exemple, qui était chef d'orchestre après de la Philharmonie de Prague, Peter Deutsch qui était chef de l'Opéra Royal de Copenhague, il y avait Egon Ledeck qui était second violon solo de la Philharmonie de Prague, etc. De jeunes étudiants brillants du conservatoire aussi de Prague qui se sont tous retrouvés là et énormément d'activités. Donc c'est là où Hulman a pu écrire effectivement son opéra.
Et également Hans Krása, d'ailleurs, un opéra pour enfants.
Brundibar.
Voilà, dont je vous propose d'écouter dès à présent un extrait. Le temps passant vite, il faudra qu'on consacre une émission à Térésine. On va écouter un extrait, petit extrait, donc de Brundibar de Hans Krása. Extrait de Brundibar, un opéra pour enfants, des enfants de Térésine. Ce qui est terrible, c'est que ces enfants, pour la plupart, étaient gazés après avoir chanté plusieurs dizaines de fois cet opéra. Bruno Giner, malheureusement, cette émission touche à sa fin. Le temps passe très vite et je crois que comme vous avez dû refaire un livre pour parler après ce chapitre sur Térésine qui vous a laissé un goût d'inachevé, il faudra revenir pour nous parler de Térésine. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, si vous souhaitez commander le livre de Bruno Giner, je vous en rappelle les références. Donc ce livre s'intitule « Survivre et mourir en musique dans les camps nazis » et c'est publié par Berck International Éditeur. Comme à l'accoutumée, cette émission sera réécoutable sur le site du Centre français des musiques juives, www.cfmj.fr. Pour nous accompagner ce soir, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Bruno Giner, passionnant, au micro Hervé Rotten, David à la technique. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mine.